ni même de l'identité de ces gens pourtant familiers. Mon regard était rivé aux flammes, aux gerbes d'étincelles qui jaillissaient vers le ciel nocturne. L'espace d'un instant, en une vision effrayante, j'ai cru apercevoir les silhouettes voûtées de mes grands-parents. Nous ne sommes pas nombreux sur les îles pendant la saison d'hiver, quand les estivants sont partis et que les derniers voiliers ont regagné leur port d'attache. Mais quelqu'un avait dû voir le feu se refléter, le réseau téléphonique avait fait le reste, et tout le monde voulait à présent se rendre utile. Les gardes-côtes sont arrivés à leur tour et ont déployé leur matériel, pompes et lances d'incendie, mais il était trop tard. L'odeur est devenue insoutenable. Le bois, le papier peint, le linoléum et le plastique brûlé combinés à l'eau de mer dégagent une puanteur qu'on a peine à oublier. L'aube s'est levée sur un spectacle de désolation. La belle maison de mes grands-parents n'était plus qu'un amas de ruines nauséabondes. Entre-temps, le vent était retombé. La tempête poursuivait sa route vers le golfe de Finlande. C'est à ce moment, tandis que le jour se levait, que j'ai eu la force de m'interroger pour la première fois sur la cause de la catastrophe. Je n'avais pas allumé de bougie la veille au soir, ni laissé brûler la moindre lampe à pétrole. Je n'avais pas fumé, ni allumé un feu dans la cheminée. Le circuit électrique avait été refait à neuf l'année précédente. Il n'y avait pas d'explication. À croire qu'elle avait pris feu de sa propre initiative. Comme si une maison pouvait se saborder elle-même à force de vieillesse, de fatigue, d'ennui. J'ai compris alors que ma conception de l'existence avait toujours reposé sur une idée fausse. Quand j'avais emménagé sur l'île, après l'erreur fatale qui avait coûté un bras à une jeune femme, c'était avec la certitude que cette maison serait encore debout longtemps après ma mort. Je m'étais trompé. Les chênes, les bouleaux, les aulnes avaient été épargnés. Mais de la belle maison de mes grands-parents, il ne subsistait désormais que les fondations. Elles étaient là, devant moi, noires de suie. De grands blocs de pierre taillée qui avaient autrefois été halés sur la glace depuis l'ancienne carrière de Håkonsborg sur la côte. J'étais si absorbé par mes réflexions que j'ai sursauté en découvrant soudain la présence de Jansson à mes côtés. Il portait ses gants de motard. Je les reconnaissais. C'était ceux qu'il mettait en hiver dès que la glace s'installait et qu'au lieu du bateau, il se servait de son hydrocoptère pour transporter le courrier. Il observait mes bottes, mes vieilles tretornes vertes en caoutchouc. En baissant les yeux, j'ai vu que dans ma panique, j'avais enfilé deux pieds gauches. Je comprenais mieux pourquoi j'avais eu tant de mal à passer la deuxième et à me déplacer ensuite. « Je peux te donner une botte si tu veux, » a dit Jansson. « J'en ai plusieurs à la maison. Je dois en avoir dans la remise. »« Non, j'ai regardé. Il y a juste une paire de crampons comme on en mettait dans le temps pour la chasse aux phoques. » Le fait que Jansson soit allé vérifier tout cela n'aurait pas dû m'étonner. Je savais depuis longtemps qu'il ne se gênait pas pour fouiner dans ma remise à bateau. C'était sa nature. J'avais soupçonné très tôt qu'il lisait tout ce qui passait entre ses mains. Jansson avait l'air fatigué après cette longue nuit. « Où vas-tu habiter maintenant ?» Je n'ai pas répondu. Je n'en avais aucune idée. Je suis remonté vers les ruines en clopinant. Voilà ce que je possédais à présent. Deux bottes gauches. Tout le reste avait disparu. Je n'avais même pas de vêtements à me mettre. À cet instant, en réalisant la véritable ampleur du désastre, j'ai été traversé par un long cri d'angoisse. Mais aucun son n'est sorti. Je n'entendais rien. Tout était silencieux. Jansson est reparu à mes côtés. Je détestais sa façon sournoise de se déplacer. Cet homme-là semblait avoir des coussinets à la place des pieds. Pourquoi l'incendie n'avait-il pas détruit sa misérable maison de Stone Square plutôt que la mienne? Il a eu un mouvement de recul comme s'il avait lu dans mes pensées. « Tu peux toujours loger chez moi en attendant si ça t'arrange. » Je ne savais pas quoi dire. « Je t'en remercie. » Au même moment, j'ai aperçu la caravane de ma fille Louise entre les aulnes, dissimulée en partie par les branches basses du grand chêne qui n'avait pas perdu toutes ses feuilles. « Il me reste la caravane. » Je peux habiter là. Jansson m'a dévisagé l'air incrédule, mais il n'a rien dit. Tous ceux qui étaient venus prêter main forte au cours de la nuit retournaient à présent à leur bateau. Avant de partir, ils passaient me voir à tour de rôle. N'hésite pas surtout. Tu sais que tu peux nous appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. La vérité était qu'en quelques heures, ma vie avait tellement changé que j'avais soudain besoin de tout. Je n'avais même plus une paire de bottes qui m'appartiennent.